Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le Festival de Cannes a commencé et nous sommes de retour avec ce format des Bulles Cannoises où chaque jour nous allons parler d'un film important présenté en compétition ou ailleurs. Et aujourd'hui on commence avec le deuxième acte, le film d'ouverture réalisé par Quentin Dupieux qui est actuellement en salle. Josué, je me tourne vers toi pour commencer. Les derniers films de Quentin Dupieux n'ont pas toujours été bien reçus à Criticat. Qu'as-tu pensé de ce nouveau cru?
Ouais, c'est un peu compliqué parce que moi je suis un dupuiste, si on peut dire les choses ainsi, assez déçu. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir on va dire, une forme de bienveillance sur les premiers films de Quentin Dupieux, que ce soit Steak, Wrong ou même Réalité. Enfin voilà, Steak et Réalité, moi, sont les films de lui que je préfère. Et à mon avis, il y a quelque chose qui s'est un peu grippé depuis son retour. Alors on appelle ça le retour en France, mais c'est presque en fait les débuts, puisque même Steak avait été tourné de mémoire au Canada et se démarquait vraiment, même avec la présence d'Éric et Ramzy, de la comédie française et d'un immense imaginaire entre guillemets français. Et là c'est un peu paradoxal parce que à la fois j'aime vraiment pas du tout les derniers Dupieux et celui-là je le trouve un peu plus réussi, voire même je me demande si c'est pas le Dupieux parmi les films français de ces dernières années que je trouve le plus intéressant. Et en même temps il y a un nœud sur ce que le film raconte et le moment où il arrive. Alors en gros je pense que c'est un film qui vraiment entérine le fait que ce qui passionne le plus aujourd'hui Dupieux, et en fait je pense qu'il a toujours passionné, c'est les acteurs, et que les acteurs c'est vraiment le nerf de la guerre. Et là il y a une idée vraiment de un peu de jeu de combinaison entre les quatre acteurs principaux, donc qui sont Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard et Léa Seydoux. Et tout au long du film, en fait, il y a une espèce de presque de jeu mathématique de changer les combinaisons, de mettre l'un avec l'une, puis l'un avec l'autre, etc. Et d'inverser un petit peu comme ça les données du problème pour confronter des acteurs, pour confronter des débits, pour confronter des démarches. Et ça, je pense que ce que le film réussit le mieux, c'est au début, c'est vraiment ces longs plans séquences, travelling, qui suivent les personnages en train de marcher. Et là où il y a quand même une forme, on peut dire, de virtuosité dans le jeu, dans la manière dont on déplie une situation, dont on déplie quelque part un problème, ou que sais-je. Ben voilà. Et moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que, en fin de compte, le film, par un jeu un peu roublard et avec un élément qui, à mon avis, n'est juste qu'effleuré, qui est la présence d'un figurant, qui est un peu le petit grain de sable dans la machine, en gros, questionne ce qu'il a toujours fait aussi depuis... on va dire principalement Réalité, mais en fait même l'introduction de Rubber, c'est-à-dire l'entremêlement du faux et du vrai pour creuser une forme d'absurde, pour créer quelque part une espèce de faille dans un monde qui serait hyper net, sans aspérité, sans qualité. Et là, en l'occurrence, c'est une espèce de restaurant sur une route un peu perdue. Et ce que raconte un peu le film, c'est que, en fin de compte, même si on entremêle le réel, la fiction, si on entremêle les vrais acteurs, puisqu'il y a vraiment des choses un peu troublantes dans la manière dont, par exemple, le personnage de Vincent Lindon ressemble vraiment à une version presque exacerbée de ce qu'est Vincent Lindon dans la réalité. Cette manière d'entremêler en permanence réel et fiction, c'est pour nous dire à l'arrivée que bah non, en fait, la fiction, c'est la fiction, le réel, c'est le réel, et donc la fiction, c'est un peu le territoire où on peut tout dire, où on peut faire des blagues sur absolument n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de morale, pas de politiquement correct, etc. Et alors là, c'est là que ça bloque vraiment pour moi, c'est le tempo de la sortie du film et le fait qu'il soit en ouverture de Cannes dans le contexte que connaît le cinéma français sur les violences sexistes et sexuelles et sur l'espèce de jeu avec la ligne rouge que le film vraiment cultive en permanence avec, je pense, un mauvais esprit un peu désagréable, d'autant que, puis je vais te passer la parole là-dessus, mais il y a quand même quelque chose qui, je sais que toi et moi, nous gêne particulièrement dans les derniers Quentin Dupieux, c'est une espèce de gratuité misogyne, quoi. C'est-à-dire il y a toujours un moment dans le film, une espèce de blague ou une espèce de scène qui est un peu gratuite vis-à-vis d'un personnage féminin. Là, c'est une insulte sexiste vis-à-vis du personnage de Léa Seydoux qui tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe. Et vraiment, tous les derniers films de Quentin Dupieux contiennent un plan, une scène, une réplique comme ça, un peu fielleuse. Et je trouve justement qu'il y a une forme d'hypocrisie un petit peu dans cette manière de Dupieux de se mettre un peu au-dessus de la mêlée, de pouvoir un peu sonder le contemporain, de s'amuser d'une supposée bien-pensance, d'une supposée cancellisation, hein, le terme est mentionné. Et que là en particulier, je trouve ça très déroutant, un peu troublant, voire même discutable, que le Festival de Cannes, dans le contexte qu'on connaît, choisisse ce film-là comme ouverture pour lancer le bal. Je trouve que ça envoie un message qui est vraiment un peu bizarre et, pour tout dire, assez désagréable.
Avant de te répondre sur cette question-là, je dois dire que pour moi, le film est presque une bonne surprise. C'est-à-dire que, comme toi, j'aime vraiment Réalité et j'aime un peu Steak, un peu moins les autres films américains, mais qui sont vraiment très étranges, voire... désagréable d'une certaine manière, mais d'une façon assez intéressante. Tandis que les films du retour en France, comme on l'appelle, me paraissent presque à chaque fois des fausses promesses. J'y vais toujours parce que c'est vrai que Dupieux, Et un peu tout seul à faire ce qu'il fait en France, donc c'est quand même intéressant de toujours aller voir ses films, et il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que je sors presque toujours déçu, voire énervé. Et là, je dois dire qu'avec peut-être Yannick, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec moi là-dessus, c'est peut-être un de ses films les plus convaincants récemment, parce que pour une fois, en fait, ses idées aussi, ses idées conceptuelles, ses dispositifs, son dispositif s'incarne par une idée de mise en scène qui est donc le plan séquence en travelling. Cette ouverture du film, qui sont donc deux plans séquences, d'abord avec Raphaël Quenard et Louis Garrel, ensuite avec Léa Seydoux et Vincent Lindon, qui vraiment cultive une durée assez impressionnante où on peut vraiment admirer le talent des comédiens pour rentrer et sortir du personnage. Et c'est là aussi intéressant, c'est que souvent, donc, bon, comme presque toujours chez Dupieux depuis non-film, il est question de mise en abîme. Or, dans un film, d'habitude, quand il y a une mise en abîme d'un tournage, en général, c'est on regarde une scène, on ne sait pas qu'il s'agit d'un tournage, et au bout d'un moment, on entend quelque chose comme coupé, et là, il y a un autre plan qui intervient, et on voit une équipe de tournage, et on comprend ce qu'il en est. Or, là, il n'y a jamais de coupé, et il n'y a jamais de plan sur l'équipe de tournage. C'est-à-dire qu'on reste dans un même plan, et en fait, Dupieux sort complètement des règles lié justement à ce rapport à la réalité ou à la fiction, puisqu'on comprend jamais le film qu'on est en train de regarder, si justement il doit vraiment jouer simplement les scènes qu'ils disent qu'ils doivent jouer, ou si les moments où ils sortent du film font partie de la matrice. Et on se doute que ça va être le cas, puisque en général chez Dupieux, quand il y a une mise en abîme, il va y en avoir une deuxième à un moment pour dire ah bah oui, la mise en abîme était une mise en abîme. Évidemment, lorsque ça arrive,
en fait, c'est un film sur un film dans un film. Voilà. En fait, c'est pas si retors que ça.
Ce qui est retors, c'est qu'en fait, par son recours à l'absurde, il se débarrasse des règles, et le film est assez agréable là-dedans, c'est-à-dire que vraiment il y a une sorte d'étrangeté dans ces plans qui ne coupent pas, dans cet hors-champ du tournage qui n'en est pas vraiment un, où ce décor aussi complètement vide de la campagne. D'ailleurs, les travelling sont filmés avec un arrière-plan flou, on est vraiment juste sur les acteurs. Et tu disais d'ailleurs que le cœur des films de Quentin Dupieux, ce qui l'intéresse vraiment, c'est les acteurs. Et ben moi, j'ai un peu l'impression que c'est une des premières fois, avec justement un peu Quenard dans Yannick, que ça c'est vraiment au cœur du film. C'est-à-dire que souvent il a des castings comme ça complètement mirobolants, c'est une sorte de Wes Anderson français par la gourmandise de ses castings, mais souvent la présence de tel ou tel acteur ne produit pas grand chose, comme c'était le cas par exemple dans Fumer fait tousser, ou je sais pas, par exemple pour parler de Vincent Lacoste, oui, à part lui faire une coupe au bol, il avait pas grand chose à lui faire faire de vraiment curieux, alors que là il creuse vraiment, que ce soit pour Léa Seydoux ou pour Vincent Lindon, qui est vraiment le plus convaincant, des spécificités de ces acteurs là et il les montre faire ce truc un peu jouissif du moment où il sort du personnage, rentre dans le personnage, ce qui est toujours le moment où voilà, c'est un peu la scène de casting de Mulholland Drive où d'un coup un acteur qui joue un acteur se révèle vraiment très doué par sa manière d'intervertir des personnages.
Mais je pense qu'on pourrait presque juger les meilleurs Quentin Dupieux à l'aune de ça, c'est-à-dire que moi, ce travail sur les acteurs, je pense qu'il est assez génial dans Stack ou même dans Réalité avec Alain Chabat. Ouais. Et en fait, c'est vraiment quand il y a une attention aux acteurs et vraiment une forme de drôlerie, de rythmique là-dessus, de jouer sur leurs intonations, sur leur bizarrerie intrinsèque, que quelque part, le cinéma Dupieux n'est jamais aussi intéressant. Ensuite, il y a quand même, tu vois, outre ce discours sur le contemporain, même ce truc du travelling, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, l'épilogue qu'on ne va pas raconter, pour moi, est aussi un peu une espèce de truc très vain, un peu creux, qui met en exergue la pseudo-maestria du film.
Je pense qu'on peut le raconter comme le film est sorti, par ailleurs, mais en fait, une fois que le film arrive au restaurant, déjà, c'est un peu moins précis, disons, par l'alternance des plans. Il y a déjà un peu moins de règles, même si c'est toujours très drôle au début. Et puis, effectivement, il y a ce premier coup de pistolet, pour ne pas trop dévoiler, même si, à mon avis, on peut le faire, qui, voilà, tranche avec une nouvelle mise en abîme. Mais à partir de là, à mon avis, le film ne tient plus tellement la route, parce que, justement, à partir de là, en fait, on commence à réfléchir aux règles. Là où auparavant, les règles de son dispositif restaient floues, et à mon avis le film était bien meilleur là-dedans.
Alors si je peux me permettre, sur la question de l'absurde, il y a quand même un petit problème, c'est que Quentin Dupieux est tellement productif, tellement staccanoviste, que tout de même, maintenant on est à 2 ou 3 films par an, et cette question de l'absurdité, elle commence aussi à être de plus en plus lissée, hein, parce qu'on voit les ficelles, on voit les trucs, et je pense que par exemple, ce qui se joue autour du figurant, cette espèce de est-ce que ce qu'on voit est de la fiction ou de la réalité, par exemple, ça c'est un truc qu'on commence à connaître dans le cinéma Dupieux et qui atténue cette impression justement de rugosité que pouvait y avoir dans ses premiers films ou ce côté même un peu vertigineux qu'on pouvait en partie cultiver réalité.
Oui, parce que ça joue sur la surprise, mais il y a quand même au bout d'un moment une forme de système qui s'installe, qui fait qu'on intense, comme je disais par exemple, le retournement d'une nouvelle mise en abîme. En tout cas, merci Josué. C'était donc notre première bulle cannoise et cette année, pour cette nouvelle saison, on inaugure un nouveau format en fin d'émission, une sorte de post-scriptum si vous voulez, la carte blanche où chaque jour un rédacteur parlera d'un autre film vu au festival ou d'un sujet de son choix concernant le festival. Et aujourd'hui, c'est Josué qui commence pour nous parler de Ma vie, ma gueule de Sophie Filière qui faisait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes.
Alors pour cette première carte blanche, j'ai décidé de parler de Ma vie, ma gueule de Sophie Filière qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes. C'est un film assez particulier puisque c'est un film posthume et en plus c'est une forme d'autoportrait déguisé de la cinéaste qui donc filme un personnage joué par Agnès Jaoui qui est une femme très anxieuse, voire ouvertement dépressive et qui est complètement hantée par la peur de mourir. Et le film est un peu inégal. Alors je ne sais pas si c'est dû à sa production qui est un peu compliquée puisque le film n'a pas pu être finalisé véritablement par Sophie Filière qui est morte juste après je crois la fin du tournage, mais il y a quelque chose de très troublant dans la manière dont en fin de compte c'est vraiment un film d'une personne vieille ou du moins qui est à la proche de la mort et qui en a pleinement conscience et qui va vraiment articuler par des jeux un peu scéniques, par des scènes, en fait des espèces de vision presque idéalisée de ce que seraient ses adieux. Il y a vraiment des scènes très très poignantes, très bouleversantes. C'est bien que le film est un peu inégal, mais quand il est bouleversant, il n'est pas qu'à moitié. Et on voit vraiment un personnage qui met en scène, par exemple, comment dire au revoir à ses propres enfants alors qu'on sait qu'on va partir. Et donc, je trouve la fois, c'est un choix de programmation assez audacieux parce que c'est un film qui même par moments peut être un peu terne, un peu inégal encore une fois dans sa manière de ménager quelque chose qui serait une forme de comédie dépressive. Hein. Je pense que le terme s'y est particulièrement bien au film. Et en même temps, qui est très singulier, c'est presque vraiment ce que le cinéma français d'autofiction peut faire de plus personnel et donc à mon avis de plus pertinent, même si c'est pas forcément la famille du cinéma français qui me parle le plus sur ce côté-là, sur ce côté de cette manière de toujours mettre un peu en scène de manière fictionnelle sa vie, mais ça produit quelque chose de vraiment par moments d'une singularité assez folle, d'autant qu'on reconnaît dans les traits d'Agnès Jaoui la figure de Sophie Filière.